Octave Mirbeau, des artistes, les peintres primés. Monsieur William Bouguereau s'était contenté jusqu'ici de nous montrer sa peinture, ses nymphes, ses vierges, ses apôtres, ses petits amours, ses petits Saint-Jean, soufflés de crème et poudrés de sucre, toute cette pâtisserie fadasse, toute cette sirupeuse confiserie, nous les connaissions depuis longtemps, et elles n'avaient rien à nous apprendre. Nous avions même été charmés de voir que, par une innovation opportune et gracieuse, qui donne à celui qui en est l'objet un joli air d'immortalité pour rire, l'État avait, devant les propres œuvres de M. William Bouguereau, inauguré son buste. Mais nous ne connaissions pas les idées de M. William Bouguereau. Nous ne savions même pas s'il en avait. Eh bien oui, il en a. M. Bouguereau a consenti à nous les exprimer. Elles sont d'une grande hauteur, et telles qu'on les attendait, d'un homme qui a son buste devant ses œuvres. L'opinion de M. William Bouguereau sur la peinture contemporaine est fort brève. Elle tient toute en ceci, qu'il est parfaitement honteux d'avoir accordé la première place à l'exposition à Édouard Manet, tandis que cette place devait tout naturellement échoir à M. William Bouguereau. Manet, avec son spirituel sourire, dominant la table de délibération du jury, comment peut-on dire vraiment que ce soit là de l'art? En outre, M. William Bouguereau se plaint, non sans amertume, que des médailles aient été distribuées par un jury incompétent et sans doute troublé par l'ironique présence de Manet à des peintres qui ne les méritaient pas ou qui méritaient mieux que des médailles. Il eût été pourtant si simple de tout concilier en attribuant toutes les places de Simèze et toutes les médailles disponibles au seul M. Bouguereau, et aussi en accompagnant son buste de quelques statues en pied et de quelques statues à cheval habilement disséminées çà et là dans les salles. Il ressort clairement des idées artistiques expliquées par M. William Bouguereau que le niveau de l'art eût monté à des hauteurs insolites et non encore atteintes si le jury des récompenses avait été exclusivement composé de M. William Bouguereau et de son buste équestre, de même que si toutes les places avaient été remplies par les œuvres de M. William Bouguereau. Pour M. William Bouguereau, l'art n'est donc réellement qu'une question de place, de médaille et de jury. Et là où il n'y a plus de médaille ni de gens qui les distribuent à M. William Bouguereau, il n'y a plus d'art. Au moins, voilà une esthétique qui a le mérite de n'être pas compliquée. M. Laroumet lui-même comprendrait. Ce bon M. Laroumet. Et voyez comme tout s'enchaîne. C'est aux infortunes concursives de M. Benjamin Constant que nous devons de connaître le fond et le tréfond du sac aux idées de M. William Bouguereau. Voici comment. Il faut dire que M. Benjamin Constant n'a pas de chance. M. Benjamin Constant n'est pas le premier barbouilleur venu, il s'en faut. Si l'on mesure la valeur d'un peintre à la dimension de ses tableaux, et pourquoi ne ferait-on pas ainsi? Il est de toute évidence que M. Benjamin Constant est le plus grand peintre de notre époque. Aucun ne saurait rivaliser avec lui. Et quel cadre! Sur ces toiles immenses, assez longues, assez larges pour abriter des banquets boulangistes, M. Benjamin Constant avait accoutumé d'étendre quelque chose de très sombre et de très sale. Une combinaison de vésicatoires et de matières empyrématiques, d'épaisses dilutions de vieux jus cuit, recuit et surcuit, des marinades de vieux cuir et de vieilles pipes culottées, des égouttements de vieux tapis, dont l'assemblage et la mixture avaient fait dire, à des connaisseurs, que c'était là de l'Orient et du vrai. Et dans cet Orient aux lumières poisseuses, aux ombres gluantes. Nul ne savait mieux que M. Benjamin Constant faire reluire en trompe-l'œil des émeraudes sur la gorge des odalisques saurés comme des harengs de Hollande, étinceler des rubis aux doigts des janissaires fumés comme des andouilles de Bretagne. Lorsque délaisse en Lorient, il peignait avec les mêmes ingrédients des portraits de femmes occidentales, il advenait aussi que, par une spéciale notion du dessin et de l'anatomie, M. Benjamin Constant oubliait de mentionner des parties essentielles, sans lesquelles un portrait, pas plus qu'un modèle, ne peuvent vivre. Je me souviens d'une femme en robe verte à qui le ventre tout entier manquait. Donc, M. Benjamin Constant possédait toutes les qualités requises pour obtenir la médaille d'honneur. On sait comment s'obtient cette médaille. C'est un roulement. Quand les artistes français se constituèrent en société libre pour la gloire et pour l'affranchissement de l'art, vous m'entendez bien, il fut convenu que tel et tel peintre aurait la médaille d'honneur à tour de rôle, même non exposant, même mort. On avait même pensé à les médailler d'un seul coup, en bloc, ce qui eût été franc. Mais cette mesure fut jugée d'une gloire trop rapide et d'un trop subit affranchissement. On décida, au contraire, pour donner à cette combinaison un caractère de spontanéité, une apparence d'imprévu, on décida qu'une année sur quatre, il ne serait distribué aucune médaille d'honneur. M. Benjamin Constant se trouvait parmi les élus. On avait fixé l'année où cet événement historique devait s'accomplir. Et M. Benjamin Constant, confiant dans l'avenir de cette médaille antespective et de ce préventif honneur, continuait d'accumuler sur son Orient les ténèbres les plus livardeuses. On avait, hélas, compté sans M. Édouard de Taille, qui, l'année dernière, l'année fatale réservée à M. Benjamin Constant, découvrit sans crier gare un problème de psychologie militaire. Il s'agissait de savoir à quoi rêvent les soldats. Personne n'en savait rien, sauf M. Édouard de Taille, qui voulut bien nous l'expliquer. Et ce fut un beau moment pour la France et pour la Société des artistes français que le rêve de M. de Taille. Jusqu'ici, nous nous imaginions que les soldats, abrutis de disciplines imbéciles, écrasés de fatigues torturantes, rêvent, quand ils rêvent, à l'époque de leur libération, au jour béni où ils ne sentiront plus le sac leur couper les épaules, ni les grossières et féroces injures des sous-officiers leur remplir l'âme de haine. Nous croyons qu'il rêvait à de vagues vengeances contre l'adjudant et le sergent-major, qui les traitent comme des chiens, à la petite payse laissée là-bas, au village lointain, aux tasses de bouillon et au fond de bouteilles de vin qu'une ingénieuse cuisinière leur garde pour les jours de congé, et aussi, parfois, à l'effroi de la mort qui les guette, on ne sait où, dans des champs inconnus, ou dans l'air homicide des casernes. À voir le petit soldat se promener, si triste, si seul, si nostalgique, il nous était permis d'inférer que, après les dures besognes et les douloureuses blessures de la journée, ses rêves de la nuit n'étaient ni de joie, ni de gloire. Monsieur de Taille nous prouva que tels, au contraire, étaient les rêves du soldat français. Il nous apprit, avec un luxe inouï de boutons de guêtre, en une inoubliable évocation de passementerie patriotique, que le soldat français ne rêve qu'aux gloires du passé et que, lorsqu'il dort, harassé, malheureux, défile toujours dans son sommeil les splendeurs héroïques de la grande armée, Marengo, Austerlitz, Borodino et, parmi la fumée des canons et l'ivresse des drapeaux déchirés et conquis, Napoléon, vainqueur du monde et père du petit soldat. Il fallut bien s'incliner devant cette œuvre, qu'on eût dit, selon le mot d'un juré, peinte par la patrie elle-même. Et M. de Taille, dont le tour de médaille n'était pourtant pas arrivé, l'emporta sur l'infortuné M. Benjamin Constant, qui fut renvoyé à l'année suivante. Hélas, l'année suivante, M. Dagnan Bouvray nous revenait directement du Jura, avec un lot choisi de Bretonnes. Elles étaient assises en rond sur la terre foulée. Au loin se profilait un petit clocher dont on entendait sonner les cloches, comme dans l'Angélus de Millet. On ne put moins faire que de donner, du même coup, deux médailles d'honneur à M. Dagnan Bouvray. Et voilà pourquoi les peintres médaillés refusent leurs médailles et remplissent les journaux de leurs doléances. Pourquoi M. Bougreau est triste? Pourquoi M. Benjamin Constant? Non, mais est-ce qu'ils ne commencent pas à comprendre, les peintres, qu'ils sont prodigieusement ridicules, à vouloir être primés comme des animaux gras et médaillés comme des commissionnaires? Et dire que s'ils n'avaient devant eux cette perspective des médailles, la plupart seraient de braves épiciers et d'honnêtes notaires. Et quand je dis « honnête », vous m'entendez bien, c'est pour le rythme. Écho de Paris, 25 juillet 1889.